L'Asie, que vous connaissez certainement tous, qui est en particulier directeur du centre d'études Marianot à Jérusalem, centre d'études francophone, et M. Franck Larowski, qui est docteur en psychologie et qui est directeur des études ici. Et ils m'ont demandé de faire la coordination des échanges, des débats. Et je pense que ça a un sens aussi qu'il me l'ait demandé. Et je vais vous dire alors comment je suis arrivé, avec quelles questions pour les entendre. Cela nous mettra peut-être dans le bain, ravivera vos propres questionnements pour entendre et confronter ces échanges. En tant que juif et analyste, nous sommes un lieu de rencontre de tradition, comme cela, d'interrogation sur le développement humain, et en particulier sur le plan analytique. Freud a une relation très complexe avec son judaïsme, mais il est indéniable que le centre de la lecture de la névrose chez Freud s'est fait autour du complexe d'Œdipe. On se réjouirait s'il avait pu faire ce type de travail dans les figures prototypiques de la tradition juive. C'est à nous de faire ce travail si nous voulons. Heureusement, il nous a laissé du travail encore. Mais en tout cas, il a été prendre ses modèles de lecture dans la tradition grecque. Alors ça nous pose des questions. En particulier, il n'était pas exclusivement tourné vers la tradition grecque. Il exigeait de ses disciples, de ses élèves, qu'ils suivent les progrès des sciences archéologiques, d'histoire des religions. Et la culture en ce domaine-là était bien plus grande que chez les analystes d'aujourd'hui, qui, assez souvent, au-delà de la culture linguistique, n'approfondissent pas tellement ces matières. Mais ces lectures, ces phénomènes de ce monde que nous pourrions dire païen, ce monde grec, ces mythes grecs, il est prouvé par l'expérience clinique que nous en avons, que cela correspond à des fonctionnements du psychisme. Ça n'est donc pas uniquement un univers de croyances qu'on peut prendre ou rejeter. Et ça nous pose un problème en tant que juifs dans la confrontation de cela avec la lecture d'un judaïsme qui ne porte pas le même regard sur tous ces représentants, je dirais, multiples, des forces pulsionnelles, des forces relationnelles qui sont représentées en nous. Bon, je vous dirai une autre question que je me pose. On pourrait se dire, bien sûr, le judaïsme est beaucoup plus centré sur l'unicité ou l'unité et repousse les paganismes, toutes les mythologies, etc. Et pourtant, la question n'est peut-être pas si simple que cela. Nous voyons par exemple que dans le traité Sanhédrin, quand il y a une sorte de description du prototype par excellence qui est les membres du Sanhédrin, il est dit en particulier qu'ils doivent être baalei rechafim, c'est-à-dire connaissant et maîtrisant les sortilèges des autres nations. Bon, c'est ce que nous faisons aussi quand nous sommes analystes. Alors, qu'en est-il? Donc, ça se passe là-dedans aussi. Il est dit aussi lorsqu'il s'agit de la lecture sur l'écriture de la Megillat Esther, qu'il y a quatre belles langues, en particulier dans la Megillat du traité Yerushalmi, quatre belles langues au monde. Il n'y a pas que la langue hébraïque, alors ils disent les belles langues, la langue grecque pour la poésie, la langue romaine pour les armes, la langue araméenne pour le commerce, et la langue hébraïque pour la parole, la langue parole. Donc là aussi, il n'y a pas une unicité, les autres ont place aussi, mais... Alors, qu'est-ce que cela signifie? Une chose qui souvent n'est pas soulignée, mais qui doit bien y avoir un sens, quand un jour, la Torah qui avait été dite ou écrite en langue hébraïque, nos maîtres, Ezra peut-être, ont abandonné l'écriture hébraïque. Notre écriture hébraïque n'est pas l'écriture hébraïque, c'est l'écriture araméenne qui a été adoptée. Et notre Torah est écrite en écriture araméenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Là aussi, je vous pose ces questions-là. Quel est le sens de cet emprunt à l'extérieur? La parole, c'est la parole hébraïque. L'écriture, c'est l'écriture d'autres peuples, d'autres nations. Et puis, donc nous sommes au milieu de tout
monsieur
ça.
Monsieur Gribon m'est demandé au téléphone, monsieur Gribon d'urgence au téléphone.
Et puis, nous savons aussi que tout ce monde de la Grèce, des mythologies, cela, sont des descendants de Yavan. Yavan, la Grèce, sont descendants de Yafet. Hein. On connaît Sem, Cam et Yafet. Et il est dit aussi dans la Genèse que il agrandira, Dieu mettra au large, ou élargira Yafet. Erta et Elohim, les Yafet, Vaïishkon, Be, Haolei, Hashem.
Donc, Haolei, Hashem.
Haolei, Hashem. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce rapport justement de ce monde de la Grèce avec toutes ces mythologies, toutes ces significations qui vont être élargies dans le bon sens du terme et qui vont intégrer les tentes de Shem, de notre univers? Qu'est-ce que cela veut dire? Quelle est cette rencontre? Est-ce que c'est ce soir que ça va se faire ou pas?
Je dis ça.
Alors, j'ai pensé aussi, et je vous cède la parole pour que vous nous éclairiez sur beaucoup de toutes ces questions et sur ce que vous aviez surtout à dire, cette lettre de Freud à Wilhelm Fliess, en 1900, hein, ce n'est pas à la fin de ses travaux, et il était en train de faire ses études sur ses recherches sur le transfert, et il constatait qu'il avait mené une cure d'une façon pas très satisfaisante, et il espérait le prochain patient pour pouvoir améliorer. Et il dit, comme il a dû faire les frais de toutes mes erreurs techniques et théoriques, je pense pouvoir mener à bien le cas prochain en moitié moins de temps. Que le Seigneur, que le Seigneur daigne seulement me l'envoyer. Parfois, quelque chose en moi me pousse vers une synthèse. C'est ce qui nous concerne aussi. Mais je résiste. Il continue sa lettre, c'est la fin. Vienne et toujours vienne. Vous voyez, c'est en dehors de l'univers hébraïque. Là. Vienne et toujours vienne. Donc, tout à fait exécrable. Si pour conclure, je te disais, ma fille, Pâques prochaine à Rome. Vous voyez, Pâques prochaine à Rome, je me ferai l'effet d'un juif pieux. Donc, disons plutôt, à cet été ou à cet automne, nous nous reverrons à Berlin. Hein? Mauvaise direction, je crois. Ou bien où tu voudras. Finalement, il va dire. Enfin, c'est bien le sujet. Où sommes-nous? Et un analyste, où est-il? Voilà. Et il termine très affectueusement. C'est ton signe. Alors, je vous cède la parole. L'objectif de ce séminaire, dans son ensemble, était d'analyser la notion d'illusion religieuse. C'est-à-dire d'essayer de comprendre dans quelle mesure la tradition juive, la tradition hébraïque ancienne, la tradition juive classique peuvent nous donner une interprétation valable pour la société contemporaine de cette notion qui nous semble tout à fait étrangère à la pensée juive et qui pourtant est une notion centrale dans le système de pensée classique du judaïsme. Illusion religieuse qui, bien entendu, est dénoncée par toute la pensée philosophique de l'Occident et depuis Marx, Engels, et Feuerbach, Nietzsche, Freud, et comme cette aliénation de la créature humaine faible et prisonnière de sa propre fatalité et croyant être victime d'un réseau de causes fatales et de malédictions qui pèsent sur son destin et sans comprendre sa profonde liberté. Or, la notion d'illusion religieuse est une notion qui existe dans le judaïsme et qui a trois figures fondamentales. La figure de faux dieux, la figure de faux prophètes, et la figure de faux messie. Et c'est surtout la notion de faux dieu qui nous intéresse maintenant, parce que c'est la notion qui préoccupe essentiellement la pensée juive classique. Et comment surgit dans l'histoire de l'humanité cette notion, cette idée de faux dieu? Quelle est la raison de cet étonnant succès des divinités païennes? Et en somme, c'est la genèse du sentiment païen qui préoccupe les sages d'Israël. Et nous voudrions comparer les interprétations traditionnelles juives avec les interprétations de l'anthropologie psychanalytique et trouver un certain nombre d'étonnants parallèles entre la vision traditionnelle juive sur l'illusion religieuse et la vision freudienne. Bien entendu, il ne s'agit pas du tout d'une récupération du judaïsme ou d'une récupération de la psychanalyse. Il s'agit d'une comparaison entre deux systèmes de pensée qui restent essentiellement étrangers et profondément différents. Il est clair que le judaïsme ignore les distinctions techniques de l'anthropologie moderne. Les écrits des sages d'Israël ne parlent jamais d'animisme, de totémisme, de polythéisme classique, de paganisme, de fétichisme, d'idolâtrie.
Il y a un seul terme qui recouvre toutes les formes possibles du culte étranger, et c'est précisément le terme d'Avodah Zara, le culte étranger, qui pourrait être traduit par un bon littérateur comme la servitude d'aliénation, c'est-à-dire comme cette attitude d'individu qui, d'une certaine façon, fait cadeau de sa propre liberté, aliène sa propre existence à une sorte d'entité étrangère et fausse. Et pour comprendre la véritable philosophie du judaïsme, il est nécessaire de revenir donc au classique de la tradition médiévale, et plus particulièrement à Moïse Maïmonide, qui, à la lumière des textes rabbiniques et talmudiques très anciens, essaye de dégager un schéma évolutif des croyances religieuses de l'humanité pour montrer à quel moment apparaît cette notion et ces sentiments du paganisme à l'époque ancienne. Le schéma des Maïmonides est très intéressant et nous essayerons par la suite de comparer avec le schéma freudien qui apparaît dans son ouvrage Moïse et le monothéisme, et nous verrons quels sont les points communs entre ces deux visions de l'évolution de l'humanité. Et Maïmonide essaye d'expliquer cette théorie dans un livre qui s'appelle en hébreu Ilchot Avodat Kochavim Umazalot, les règles sur les cultes des astres et des sorts, qui est un traité consacré essentiellement à l'idolâtrie dans toutes ses manifestations. Il ressent le besoin d'expliquer, avant d'entrer dans les détails pratiques de la lutte contre l'idolâtrie, de montrer au lecteur, qui est essentiellement le lecteur juif qui est à la recherche d'un code des lois juives, pour quelle raison l'humanité est tombée dans ce que Maïmonide considère comme un véritable piège et une erreur de logique. Et là, on peut voir que pour Maïmonide, essentiellement, l'humanité était à l'origine monothéiste. Pour lui, il est clair, et c'est la doctrine traditionnelle qu'on retrouve d'ailleurs dans les tout premiers chapitres de la Genèse et dans les écrits juifs traditionnels, la première forme d'expérience religieuse de l'humanité était le monothéisme. Nous verrons par la suite que cette doctrine, qui est une doctrine ancienne dans la tradition juive, est reprise par certaines écoles de l'anthropologie et récupérée par ces écoles avec des finalités théologiques très contestables. Donc le monothéisme primitif, le monothéisme à l'aube de l'humanité, est un monothéisme quelque peu indifférencié, qu'il ne faut pas confondre avec le monothéisme hébraïque, abrahamique, qui est une sorte de croyance beaucoup plus tardive, plus développée. Ce premier monothéisme n'était rien d'autre que la croyance à l'existence d'un Dieu unique et en sorte d'hommage qui était rendu par la toute première génération de l'homme au créateur de toutes les choses. Dans ce schéma, il y a une relation directe entre l'homme et Dieu à l'aube de l'humanité, relation directe qui exclut les temples, les images, les prêtres et toute forme de médiation. Et il est clair que dans cette conception hébraïque traditionnelle, ce qu'on appelle donc l'homme originel, les toutes premières générations de l'homme, ils ne sont pas du tout des primitifs, des sauvages. Le judaïsme traditionnel ignore cette classification de l'anthropologie en peuplade sauvage, barbare et peuple civilisé. Il est clair que dès le début, depuis que l'homme existe en tant qu'homme, qui est défini en tant que tel, et la croyance apparaît donc comme une croyance fondamentale de la créature et en rapport avec son créateur. Or, ce monothéisme originel connaît une dégradation. Et là, Maïmonide se demande l'origine de cette dégradation, de cette dégénérescence. Il explique à l'époque d'Enoch, qui est le petit-fils d'Adam, donc la troisième génération de l'homme dans le schéma biblique, et dit Maïmonide, les hommes tombèrent dans une grande erreur. Cette génération vit tarir la prudence de ses sages. Enoch lui-même partagea l'égarement commun, et voici quelle fut cette erreur. Les hommes se dirent, Dieu a créé ses étoiles et ses sphères pour diriger l'univers. Il les a placées dans les hauteurs, et leur a en partie des honneurs. Et il est juste que ces étoiles et ces sphères, qui sont des serviteurs, servant devant sa face, devant la face des dieux, on les loue, on les exalte et qu'on leur rende des témoignages d'honneur. Car telle est la volonté du Seigneur, béni soit-il, que l'on exalte et honore ceux qui font sa grandeur et sa gloire, tout de même qu'un roi Et c'est là l'analogie frappante établie par Maïmonide, qu'un roi prend plaisir à voir honorer ses serviteurs qui sont directement à son service et pense qu'en les honorant, on honore le roi. Donc, à l'origine, dit Maïmonide, ce qui est important, c'est de préciser qu'il y a une analogie politico-religieuse, une analogie qui est fondée sur la notion de, du pouvoir et des soumissions, qui est à la base de cette erreur. L'erreur consiste à considérer que l'homme étant un sujet, et Dieu étant le roi ou le souverain, le monarque de l'univers, il est nécessaire de rendre hommage, pas simplement au roi lui-même, mais à ceux qui exercent d'une certaine façon le pouvoir du roi, de la même façon qu'on honore le gouverneur, le maire, le juge, les officiers, de la même façon que le sujet d'un royaume doit honorer les serviteurs qui sont au service du roi et qui expliquent et qui représentent la volonté du roi, de la même façon, l'être humain doit vénérer les étoiles, les sphères, les forces naturelles, toutes les forces du terrien qui, d'une certaine façon, expriment une puissance divine supérieure. Il est clair que pour Maïmonide, tout cela n'implique pas du tout le polythéisme classique. Il ne s'agit, dans la vision maïmonidéenne, de rien d'autre que d'un monothéisme dégradé. Les hommes qui tombent dans cette erreur, qui pour Maïmonide est une erreur de raisonnement, est une erreur logique, et les hommes qui tombent dans cette erreur, au fond, sont des monothéistes. Ils n'admettent que l'existence d'une seule force divine et qui préside, à qui organise l'univers, qui crée l'univers, mais ils pensent qu'un certain nombre de forces, comme le soleil, les étoiles, la lune, et un certain nombre de planètes, l'océan, les montagnes, d'une certaine façon, traduisent, expriment cette force divine et ont été privilégiés par les créateurs. Ils doivent donc, d'une certaine façon, être vénérés par l'homme. Là, Maïmonide voit dans cette erreur logique, dans cette erreur de raisonnement, la clé d'une succession d'erreurs qui vont aboutir au polythéisme classique. Par la suite, dit Maïmonide, il y a ici, dans cette vision du monothéisme dégradé, il n'y a pas de temple. Et finalement, les objets de la nature sont vénérés partout. Les hommes s'adressent donc à la mer, à la montagne, au volcan, et tous les lieux sont des lieux sacrés. Il n'y a donc pas une répartition du space terrien, et toute la terre est l'objet du sacré, l'objet de la vénération. Il n'y a pas d'image non plus. Et c'est un élément important, et il n'y a donc pas de représentation visuelle, il n'y a pas de représentation artistique ou autre de la force de la divinité. De la même façon, et Maïmonide, de ce point de vue, est très attentif à la naissance du phénomène, il n'y a pas de prêtrise. Et il n'y a pas non plus donc de force de médiation entre l'homme et Dieu, autre que les forces naturelles elles-mêmes. Or, et là apparaît justement la... C'est la troisième étape. L'institution templière, les temples vont voir le jour. Il y a une localisation spatiale du culte. Certains éléments, certains lieux vont être réservés au culte. Certains lieux vont devenir des lieux où la prière ou l'expression de l'appel de l'homme à Dieu sera possible. Et d'autres deviendront donc des lieux profanes. Et voici comment Maïmonide exprime cette localisation, cette spatialisation de la terre. Ayant conçu une telle pensée, les hommes commencèrent à bâtir des temples aux étoiles, à leur offrir des sacrifices, à les louer et exalter en parole, à se prosterner en face d'elles, afin d'accomplir la volonté des dieux et de se concilier les créateurs, comme de les faisait croire leurs pensées fallacieuses. Et c'est là que gît le principe de l'idolâtrie, et c'est ainsi que raisonnaient les idolâtres qui connaissaient ces principes, sans pour autant professer la divinisation exclusive de tel ou tel corps céleste. Et c'est là qu'a voulu faire entendre Jérémie, quand il s'écriait « Qui ne te craindrait, ô roi des nations, c'est à toi que la crainte est due, car entre tous les sages des nations et dans tous les royaumes, il n'est point qui te ressemble, sans exception, ils sont stupides, fous, leur doctrine et vanité, c'est du bois. » Autrement dit, et voilà l'explication maïmonidéenne, tous connaissent qu'il n'est d'autre Dieu que toi seul, mais leur erreur et leur folie consiste à croire que dans la vanité de leur culte des astres, tu mets ta volonté divine. Autrement dit, la naissance du temple, de l'institution du temple, va être un élément important. À partir de cette localisation dans l'espace de ce culte aux étoiles, même si ce culte apparaît comme une sorte de médiation vers la divinité unique, et les différentes récupérations, exploitations et de l'illusion religieuse vont être possibles. Jusqu'à là, dans ce schéma, tous les hommes sont dans l'erreur. Et il n'y a pas d'exploitation de ces sentiments. Il n'y a pas une volonté de tirer profit de l'erreur des autres, de mener la foule dans une certaine direction. Mais là apparaît justement, et c'est un élément important, une sorte de la naissance d'un groupe d'hommes privilégiés par leur savoir qui, d'une certaine façon, vont exploiter cette tendance de l'homme à prendre donc contact avec les forces de la nature comme un moyen de faire appel à la divinité, et se présenter donc comme les faux prophètes qui représentent le message de la divinité. Et là, dit Maïmonide, se trouve la quatrième étape, la quatrième époque vers le polythéisme pur. C'est la naissance de la fausse prophétie, qui est le début des multiples divinisations. Encore, dit Maïmonide, à cette époque, jusqu'à la troisième époque, on voit que l'humanité tout entière partage l'idée d'un Dieu unique. Et simplement que toutes les forces de la nature ne font que traduire les messages du Dieu unique et sont vénérées à la façon des gouverneurs devant lesquels on se prosterne parce qu'ils sont nommés par le roi. Mais là, justement, Maïmonide nous parle de ces faux prophètes. Avec le cours du temps, des faux prophètes s'élevèrent parmi les hommes. Ils prétendent dire que la divinité leur avait adressé la parole pour leur enjoindre d'adorer telle étoile en particulier ou l'ensemble des astres, de leur offrir de sacrifices ou des libations selon tel ou tel rite, de leur bâtir un temple et de faire d'elles des représentations plastiques devant lesquelles se prosternait tout le peuple, les femmes, les enfants et les restes des ignorants. Et tandis qu'il décrivait à la foule l'image qu'avait conçue son imagination, le faux prophète affirmait qu'il s'agissait de l'image de telle étoile, l'image qui lui avait été révélée par le ciel en vision prophétique. Là apparaît donc d'une certaine façon un nouveau type de personnage qui sera essentiel dans le glissement vers le polythéisme, le faux prophète. Et là, on a un schéma beaucoup plus vaste. Entre l'homme et Dieu, il y a déjà un certain nombre d'éléments de médiation. Les faux prophètes, qui eux, sont à l'intérieur de temples, et dans les temples, on va prier les étoiles, les forces de la nature, qui sont les médiateurs qui permettent de communiquer avec la force divine unique. Donc, d'une certaine façon, la fausse prophétie est un moment décisif. Ce qui est important de signaler, c'est que Maïmonide, tout en étant médecin et un médecin spécialiste de l'aliénation mentale, ne nous dit pas, et c'est un problème que se posera durant longtemps, et dans la pensée hébraïque, mais surtout aussi dans la pensée moderne, particulièrement en France avec les encyclopédistes et avec l'idéologie, à savoir, les faux prophètes sont-ils tout simplement des profiteurs qui consciemment exploitent les sentiments et la peur, la crainte de la foule, ou sont-ils peut-être des êtres très imaginatifs et qui, d'une certaine façon, par leur faculté paranormale, arrivent à imaginer, à créer et à figurer des systèmes de pensée nouveaux. Autrement dit, s'agit-il d'une certaine façon d'une conspiration consciente contre la vérité ou non? Le texte de Maïmonide est ici très obscur, parce qu'il fait allusion à l'imagination, mais il ne nous dit pas quel est le rôle de cette imagination, est-ce que c'est cette imagination qui a été à la base du système ou non. Et là, ajoute Maïmonide, c'est de la sorte que s'introduisit la coutume de placer des statues dans les sanctuaires, sous les arbres, au sommet des montagnes, sur les collines, les assemblées autour d'elles, se prosternaient devant leur face, et les desservants de chacune faisaient entendre à tout le peuple que telle idole était capable de causer du bien ou du mal, qu'elle était digne et qu'on la servit ou la craignait. Et alors, les prêtres qui desservaient ces sanctuaires ajoutaient « Ce culte vous fera prospérer et réussir. C'est pourquoi agissez de telle ou telle sorte et abstenez-vous de telle ou telle action. » Donc là, apparaît déjà un élément important, c'est la représentation figurative des forces de la nature. Ce que va être déjà un élément nouveau, qui va être essentiel dans la définition juive traditionnelle de l'idolâtrie et qui est jusqu'à présent manqué. Si nous voyons toutes les étapes citées par Maïmonide auparavant, et il n'y a absolument pas de statue, il n'y a pas d'image, il n'y a pas d'idole. Le culte d'idole n'existe pas. Il faut donc attendre une cinquième étape qui est postérieure à la naissance de la fausse prophétie. Et cette cinquième étape, c'est la naissance de la représentation, qui est déjà un tournant décisif. On ne peut plus, à partir de ce moment-là, s'adresser directement aux forces de la nature. L'homme ne peut plus prier la montagne, la mer, l'océan, le volcan, les nuages, le ciel. Il ne peut que s'adresser à l'image, à la figure, à la statue. Et vous voyez que dans le schéma maïmonidéen, au sommet de ce système de pensée, il y a toujours une force divine unique qui est reconnue plus ou moins vaguement par tous. Et cette force unique est encore le Dieu créateur du ciel et de la terre qui, pour lui, existe et continue à exister, ne serait-ce qu'à titre de figure de pensée, dans ce monothéisme dégradé. Et là, nous trouvons donc déjà un système avec de multiples échelons entre l'homme et son créateur, entre l'homme et Dieu, se situent les faux prophètes, ces faux prophètes qui sont les intermédiaires indispensables et qui, eux, prient à l'intérieur des temples, prient et s'adressent à des images, à des idoles qui représentent des étoiles qui, d'une certaine façon, sont des médias. Donc là, Maïmonide situe les débuts des schismes religieux et des religions séparées. Jusqu'à là, il s'agit d'un système vaguement désorganisé qui, d'une certaine façon, est universel. Mais à partir du moment où des prêtres et des temples s'organisent dans une sorte de spécialité, des spécialisations dans un sens ou dans l'autre, il y aura le culte des montagnes, le culte de l'eau, et à partir de là, apparaîtra, dit Maïmonide, une certaine spécialisation, et là, apparaîtra l'idolâtrie proprement telle. Et des systèmes différents de pensée. Donc Maïmonide est sensible au fait que tous les systèmes idolâtriques ne constituent absolument pas un bloc homogène et l'idolâtrie n'est pas la même dans chaque pays, dans chaque endroit. Mais c'est à ce moment de l'histoire que Maïmonide va situer l'origine des schismes religieux des différentes idolâtries. Là, toujours est-il, dans son système, Maïmonide considère tout cela comme du monothéisme dégradé. Le passage au polythéisme n'est pas encore évident dans son esprit. À aucun moment, dit-il, jusqu'à maintenant, jusqu'à cette cinquième période, on ne trouve la représentation des forces de la nature comme des divinités séparées. Aucune de ces forces de la nature n'est en elle-même créatrice. Aucune de ces forces de la nature ne peut agir par sa propre volonté. Toutes ces forces sont, d'une certaine façon, opèrent à la façon des anges maïmonidéens, c'est-à-dire comme des instruments de la volonté divine qui sont doués d'intelligence mais qui ne sont pas doués de volonté. Le volcan, la montagne, l'océan, l'eau, les quatre éléments de la nature ne sont au fond que des représentations d'une force divine suprême. Or, dans cette vision, Maïmonide commence à penser, à réfléchir au décalage entre une élite savante et la masse populaire. Et là apparaîtra l'oubli du monothéisme avec cette division qui est essentielle dans sa pensée. Une religion populaire et une religion savante. Et c'est là le sixième moment dans la naissance du polythéisme, dans l'oubli du monothéisme, dans l'oubli de l'existence d'un seul créateur. Voilà comment Maïmonide va expliquer cet oubli. Comme le temps était passé de nouveau, toutes les créatures oublièrent en parole et en pensée le nom glorieux et terrible au point de le méconnaître totalement. Et là, il revient à sa phrase célèbre. Les ignorants, les femmes, les enfants, ne virent plus que la statue de bois ou de pierre, que les sanctuaires bâtis en pierre dans lesquels on leur avait appris depuis leur plus jeune âge à se prosterner devant l'idole, à la servir et à jurer par son nom. Donc, il y a un rôle de l'éducation. Il y a une sorte d'apprentissage de l'idolâtrie. Cette idolâtrie qui sera d'une certaine façon le fruit de cet oubli du monothéisme et en même temps la raison de l'oubli du monothéisme. Nous voyons bien que dans ce système, et jusqu'à présent, il y a toujours un créateur du monde. Or, ce créateur du monde est un peu comme les rois fainéants du royaume de France. C'est-à-dire que finalement, c'est le maire du palais qui a tout le pouvoir, ce sont les gouverneurs, ce sont donc les chefs guerriers qui ont tout le pouvoir dans les royaumes, et le roi fainéant, qui est toujours transporté en carrosse et par ses fidèles, est au fond l'objet d'une vénération purement diplomatique, mais ne dispose en vérité d'aucun pouvoir. Et dans ce système de pensée, il est évident que cette force divine qui était placée au sommet de la pyramide imaginaire maïmonidéenne, et c'est-à-dire l'homme, le faux prophète, le temple, les images, les forces de la nature et finalement la divinité, eh bien, entre la base de la pyramide, c'est-à-dire l'humanité, et le sommet de la pyramide, il y avait un ensemble de forces médiatrices tellement nombreuses que le sommet de la pyramide disparaissait du regard des hommes. Quant aux gens instruits qui comptaient ces générations, tels les prêtres et autres dignitaires, ils pensaient eux-mêmes qu'ils n'étaient d'autres divinités que les astres, les sphères, à l'intention et à la ressemblance desquelles avaient été faites ces statues. Et donc, là, on voit bien que même la religion savante, elle ignore l'existence du Dieu créateur. Les images ne sont bien sûr pas des divinités, mais elles sont les représentations des divinités, des multiples forces de la nature qui, elles, sont des forces divines, des forces créatrices ou destructrices. Et la différence que Maïmonide établira entre cette religion populaire et cette religion savante est au fond en ce qui concerne le fétichisme de la statue. Dans la religion populaire, les images, les idoles, les statues sont vénérées et plus que vénérées, sont sacralisées, divinisées, sont des véritables divinités. Elles ne sont pas simplement une expression symbolique du sacré, elles représentent, elles véhiculent le sacré. Par contre, dans la religion savante, plus sophistiquée et plus instruite, les images ne sont qu'une représentation symbolique ou à la rigueur artistique, esthétique, de différentes forces de la nature. Mais toujours est-il que même dans cette religion savante, le monothéisme est maintenant mis entre parenthèses, car les forces de la nature sont maintenant multiples. Et voilà donc comment opère dans l'humanité le passage de l'un au multiple. Là, Maïmonide fait allusion tout de même à un conflit intense qui se fait sentir à toutes les générations entre la masse et une minorité dissidente qui continue à croire aux notions archaïques du monothéisme originel et qui se conserve d'une façon latente des générations et générations et qui est professée par une minorité infime et dont Maïmonide cite d'ailleurs le nom des principales personnalités. Et il dit que le rocher de l'univers, le créateur du monde, n'avait point d'homme qui le connût, à l'exception de quelques particuliers, et il cite Enoch, Mathusalem, Noé, Shem et Eber. Donc, à chaque génération, un certain noyau d'hommes conteste le système établi et d'une certaine façon se rattache au système le plus archaïque, le plus primitif, celui du monothéisme originel. Et là, le retour au monothéisme, retour donc à ce monothéisme oublié, refoulé, apparaîtra avec Abraham, quand Abraham, d'une certaine façon, va contester tout le système de l'idolâtrie et détruire les idoles et professer la croyance à l'existence d'un Dieu unique. Là, la doctrine abrahamique est décrite avec beaucoup de détails par Maïmonide. Il considère que Abraham arrive au monothéisme par la voie de la réflexion philosophique pure. Personne n'avait enseigné Abraham, il ne l'avait informé de rien. Il était à Ur des Chaldéens, plongé dans un milieu de sots idolâtres. Son père, sa mère, le peuple tout entier servaient les astres et il les servait avec eux. Signalons d'ailleurs l'opposition entre la pensée de Maïmonide et la pensée de Judas Lévi, qui considère Abraham comme l'élève direct de son grand-père. Et ce qui est un élément important pour Judas Lévi, Abraham, il est le continuateur d'une lignée de fidèles monothéistes qui, de façon presque clandestine, continue à agir à Ur des Chaldéens, alors que pour Maïmonide, c'est à la lumière d'une réflexion philosophique personnelle que Maïmonide arrive à la compréhension de la vérité. Abraham arrive à la compréhension de la vérité. Enfin, grâce à la justesse de son esprit, il atteignit la voie de la vérité, discernant le fond des choses, à savoir qu'il existe un Dieu unique. Et là, Abraham proposa des questions aux Chaldéens en disant « La voie que vous suivez n'est pas celle de la vérité. » Il brisa les statues, commença à révéler à la multitude que seul le Dieu de l'univers était digne d'être adoré. Et là, évidemment, commence la persécution d'Abraham par le roi Nemrod de Babel. Et c'est le début donc du monothéisme hébraïque, qui d'une certaine façon apparaît comme le retour du refoulé, comme le retour du clandestin, de l'oublié, comme le retour de ce monothéisme originel, mais que d'autre part, et nous verrons bien, n'est pas seulement ce retour, car un certain nombre de notions qui n'existaient pas auparavant sont acceptées, le temple, les prêtres, les sacrifices, les prières, la prosternation, les prophètes, toutes notions qui n'existaient pas dans ce monothéisme originel des premiers jours de l'humanité. Donc, dans le système maïmonidéen, qui d'une certaine façon exprime la vision juive traditionnelle, il est vrai que le monothéisme n'apparaît pas comme le résultat d'une élaboration tardive de l'histoire de l'humanité, de la même façon que le polythéisme ne serait pas quelque chose qui existait à l'aube des temps historiques, mais qui apparaît, qui est le fruit d'une évolution plus tardive. Évolution qui va du monothéisme originel, donc à un polythéisme plus tardif, évolution qui va de l'un et au multiple. Comment nous pouvons rattacher cette explication maïmonidéenne, qui est l'explication de l'anthropologie hébraïque classique sur la genèse du paganisme, aux interprétations de l'anthropologie psychanalytique? Pourquoi je parle maintenant d'anthropologie psychanalytique? Parce qu'il est évident que l'anthropologie psychanalytique est un système dissident de l'anthropologie. Le système fondé par Freud en matière d'anthropologie n'est pas le système des ethnographes, des spécialistes des sciences des religions, est un système qui est contesté et qui apparaît d'une certaine façon comme central dans la pensée contemporaine, mais marginal dans la science anthropologique moderne. Et Freud se posait longuement cette question du monothéisme originel. Il s'est posé la question de savoir si effectivement, à l'origine, l'humanité croyait à l'existence d'un seul être suprême, d'une seule force divine, unique, créatrice, et douée de tous les pouvoirs, ou bien, si à l'origine, on pouvait parler peut-être d'une sorte de multiplicité des croyances et des rites, qui par la suite ont abouti, au bout d'un très long développement, au monothéisme. Il est clair que les écrits freudiens ne sont nullement clairs sur cette question. Si on prend un écrit le premier grand écrit anthropologique de Freud, Totem et Tabou, il est clair que la première grande croyance de l'humanité n'était pas le monothéisme. Pour différentes raisons, à un moment donné, Freud élabore une doctrine qui, elle, est profondément en opposition à celle du monothéisme originel. Et il imagine qu'à l'origine, l'humanité était organisée en forme de hordes primitives, de groupes, de foules d'individus dirigés par une sorte de père qui était un mâle puissant et tyrannique, et jusqu'au moment où une sorte de ligue de frères est composé par des fils révoltés contre l'autorité du père, ont mis à mort donc le vieux patriarche et ont instauré une nouvelle étape, la Ligue des Frères. Seulement qu'à partir de ce meurtre primordial, va surgir un sentiment, dit Freud, de culpabilité, et ce remords va donner naissance finalement au totémisme comme première forme de l'humanité et de la religiosité humaine, et le totémisme étant d'une certaine façon une façon d'exprimer le sentiment de faute, de culpabilité, le remords de l'individu et pour la mort et du père. Identification donc du père un animal puissant qui sera considéré comme le totem de la tribu. Et, bien entendu, et cette doctrine freudienne postulerait qu'en vérité, la genèse du sentiment religieux et le sentiment de culpabilité, le remords, pour un meurtre primordial qui a eu lieu. Si nous comparons cela à la naissance du polythéisme décrite par Maïmonide, on trouve une opposition frappante. Pour Maïmonide, c'est essentiellement une volonté de soumission à l'autorité qui est à l'origine de cette dégradation du polythéisme. C'est une volonté d'acceptation du pouvoir. C'est une soumission au pouvoir qui, d'une certaine façon, permet d'expliquer ce glissement vers le polythéisme. L'homme se considérant essentiellement comme un sujet qui doit rendre hommage à au roi, à l'empereur, au monarque, et se soumet également à toutes les forces qui, d'une certaine façon, représentent son autorité. Par contre, dans le schéma freudien, on ne trouve nullement cette notion de soumission à l'autorité. Il y a certes soumission symbolique à l'autorité après les meurtres. C'est un élément important qui reflète d'une certaine façon toute la problématique, à savoir pourquoi finalement l'homme peut essayer de vouloir se soumettre à l'autorité. Là apparaît déjà un problème fondamental qui concerne pas simplement l'origine de l'illusion religieuse, mais qui concerne l'origine de l'expérience religieuse. Car si la tradition juive, elle, considère comme une illusion religieuse la notion des faux dieux, il est clair que dans l'esprit freudien, l'opposition des faux dieux et du vrai dieu n'existait pas. N'existait pas du tout, dans la mesure où Freud, qui postule un athéisme matérialiste dans la mode de la fin du XIXe siècle, n'admet pas cette distinction. Et c'est un élément fondamental, et dans son système de pensée, toute croyance religieuse étant fondée sur une illusion, l'étude de l'illusion religieuse n'est pas l'étude des déviations de la vraie foi et originelle, mais c'est surtout l'étude de toutes les formes et religieuses possibles. Il convient tout de même de signaler une étrange analogie entre la pensée maïmonidienne et la pensée freudienne qu'on trouve dans la description faite par Freud de ce qu'il appelle le monothéisme égyptien. Et dans Moïse et le monothéisme, Freud nous dit que effectivement le peuple égyptien était plongé dans une sorte de polythéisme grossier jusqu'au moment où le pharaon Akhenaton va établir un nouveau culte qui est le culte du soleil. Culte qui est considéré par Freud comme du monothéisme et du monothéisme pur. Et il est intéressant que la description que donne Freud du culte du soleil égyptien corresponde à la description donnée par Maïmonide dans le livre de la connaissance sur les motivations qui ont poussé les hommes à adorer les étoiles et éventuellement le soleil. Il nous dit sur justement le pharaon Akhenaton, qu'il glorifie le soleil créateur, protecteur de tout ce qui existe, en Égypte et en dehors de l'Égypte. L'ardeur qui transparaît dans les hymnes d'Akhenaton est comparable à celui qu'animera, quelques siècles plus tard, les psaumes en honneur du dieu juif. Toutefois, le pharaon Akhenaton ne se contenta pas de cette surprenante anticipation sur la connaissance scientifique des effets du rayonnement solaire. Il fit, c'est certain, un pas de plus, en n'adorant pas le soleil en tant qu'objet matériel, mais en tant que symbole d'un être vivant dont l'énergie s'est manifestée par ses rayons. Il est intéressant la distinction établie par Freud, car elle recouvre d'une certaine façon l'idée maïmonidienne selon laquelle l'origine de l'illusion religieuse consiste précisément dans le fait que les hommes n'adoraient pas le soleil en tant que soleil, n'adoraient pas les étoiles en tant qu'étoiles, mais en tant que simplement manifestation d'une puissance divine. Et c'est ce que, selon Freud, s'est passé effectivement à l'époque d'Akhenaton. Et pour mieux étayer sa doctrine, qui apparemment est très frappante,